La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici ce matin dans cette maison de prière. Nous sommes rassemblés ici ce matin pour entendre une parole, pour peut-être aussi faire une pause dans nos vies quotidiennes et nous tourner vers Dieu, pour être ensemble dans la communion fraternelle. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet. Nous sommes ensemble ce matin, malgré la distance. Merci à Sarah Kim qui accompagne ce culte ce matin. Et en ce début d'année, nous allons prier ensemble dans un monde difficile, où nous avons tous besoin de prendre du recul. Je vous invite à la prière avant d'entrer dans ce temps de culte. Éternel, bénis-nous et permets que nous soyons ensemble rassemblés par ton esprit, que ton esprit devienne notre esprit, l'esprit avec lequel nous allons envisager la parole qui est dans la Bible, que ces mots deviennent des mots pour nous, des mots actuels, des mots qui nous fassent penser, des mots qui nous rendent meilleurs. Éternel, rassemble-nous dans ton Église. Et je vous invite à entrer dans ce temps avec le premier répond qui est inséré dans le livret au début du psautier, et nous nous levons pour chanter. Et je voulais signaler que nous sommes en communion ce matin avec l'église Saint-Eustache qui fête l'anniversaire de la paroisse et où ma consœur Agnès Adeline Schaeffer est en train de nous représenter. Voilà. Nous louons Dieu, lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Louons le Seigneur avec le psaume 36, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir. Dans l'Épître aux Romains, il est écrit « Ne devez rien à personne sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime son prochain a accompli la loi. En effet, le code de loi, tu ne dois pas commettre d'adultère, tu ne dois pas assassiner, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas convoiter, et tous les autres commandements se résument en cette seule phrase. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Que ces paroles nous guident dans nos vies. Je vous invite à chanter. Nous nous présentons devant Dieu. Éternel, devant toi, nous le confessons. Nous ne faisons pas le bien que nous voulons et nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce renouvelée sur nous. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Et Jésus ajoute, aujourd'hui cette parole, quand vous l'entendez, elle est accomplie. Qu'ainsi tous ceux, toutes celles qui se sentent pauvres dans leur cœur, se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que toutes celles et ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que celles et ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu, car aujourd'hui, cette parole est réellement accomplie pour toutes celles et ceux qui l'entendent. Confessons ensemble notre foi. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons qu'il travaille en nous par son esprit pour nous apporter la réconciliation et le renouveau. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à nous rassembler pour célébrer sa présence, pour aimer et servir les autres, pour rechercher ce qui est juste et résister au mal. Nous proclamons le royaume de Dieu dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous croyons en Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Le texte biblique choisi aujourd'hui sera particulièrement court, puisque j'ai choisi le verset que nous avons travaillé ensemble à la dernière séance de Théophile, ici même, dans nos locaux, cette semaine, mardi soir, sur la question de la règle d'or. Et donc, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, le verset 12, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. » Je vous invite à chanter ensemble le psaume 23, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à la prière avant de pouvoir méditer ce verset que nous avons entendu. Et nous prierons ce matin avec un philosophe qui a été prédicateur ici même à l'Oratoire du Louvre, dans une autre confession que la nôtre, mais qui avait le même souci de la justesse de sa pensée. Ô Maître, apprenez-moi à faire oraison. Aidez-moi à faire taire mes sens et mes passions, ou élevez votre voix afin que, malgré le bruit confus qu'ils excitent en moi, j'entende clairement vos réponses. Mon esprit travaille par son attention, mais souvent ses efforts sont inutiles. Mon imagination inquiète et chagrine de ce que je m'applique à des sujets où elle n'entend rien, vient à la traverse et dissipe toutes mes idées avant qu'elles aient passé jusqu'au cœur. Verbe fait chair, raison des intelligences qui avaient pris corps afin de rendre la vérité sensible à des hommes charnels, accommodez-vous à ma faiblesse, parlez-moi d'abord un langage qui n'effraie point toutes les puissances de mon âme. Vous savez que je veux invinciblement être dans votre bonheur. Donnez-moi donc dans l'oraison l'avant-goût des vrais biens afin que je les désire. Donnez-moi le dégoût des faux biens afin qu'ils me fassent horreur. Soutenez par la douceur de votre grâce l'attention de mon esprit. Nicolas Malebranche. La semaine passée, ici même, c'est avec la parabole du bon samaritain que nous évoquions, grâce à la réflexion de notre invité Jacques Mérienne, l'amour du prochain. Aujourd'hui, c'est la règle d'or que j'aimerais méditer avec vous dans sa version biblique. Dans la culture générale, nous avons en tête une règle d'or qui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Cet interdit semble aller de soi et on ne voit pas comment il serait possible de ne pas être d'accord avec cela. Pourtant, la chose est plus difficile qu'il n'y paraît. L'effet de miroir d'une telle règle présuppose qu'autrui ne veut pas les mêmes choses que celles que nous ne voulons pas. Il n'a pas forcément les mêmes aspirations et n'a pas les mêmes défenses à l'égard des mêmes choses. Mais comment savoir si autrui est d'accord avec moi sur les choses qu'il n'aimerait pas subir? Comment véritablement le mesurer? Une telle formulation nous emmène dans l'écueil d'une universalité du bien et du mal, dont tous les débats éthiques montrent aujourd'hui qu'il n'est jamais simple, à moins de procéder au cas par cas, de savoir ce qu'autrui refuserait ou non. L'universalité semble contradictoire avec toute notion éthique. En fin de vie, par exemple, je n'aimerais pas qu'on débranche la machine qui me tient lieu de moyen de respirer. Mais c'est mon avis à moi. Que feront ceux qui s'occuperont de moi alors? Un autre vous dira qu'il préférerait qu'on ne le réanime pas du tout. Mais il dit ça alors qu'il est en bonne santé. Un autre, enfin, vous dira qu'il demandera le suicide assisté avant d'en arriver là. Mais là encore, tout cela ne n'est que projection. La vérité est qu'aucun des trois ne sait comment les circonstances se présenteront au moment de la fin de sa vie et qu'une question éthique de ce type ne se règle déjà pas si facilement individuellement, alors universellement imaginée. Les volontés anticipées en la matière font frémir quiconque y pense avec un peu de profondeur et de sérieux. Comment projeter une volonté aussi dépendante de circonstances aussi aléatoires? Qui sait quel sort lui est vraiment réservé? Et ne fait-on pas peser sur autrui un poids impossible à porter quand on lui demande de se déterminer sur des questions aussi difficiles à envisager? Quel est le bien de l'autre? Qu'en savons-nous? Quelles règles respecter quand il s'agit du bien de l'autre? L'exemple choisi est extrême, sans doute c'est un cas que nous qualifierions de limite, mais il montre qu'autrui n'est pas une simple construction résultant de critères de choix simples ou de conjectures faciles. Autrui est vivant et son existence est mouvante. Et ce qu'il pense aujourd'hui ne sera pas forcément ce qu'il pensera demain. Je ne peux lui demander de se prononcer sur le traitement qu'il souhaiterait pour lui-même simplement. Alors comment faire, comment savoir ce qu'il est bon ou mauvais de faire pour lui ? Même à le considérer comme sujet pensant et responsable, je risque fort de me tromper quand j'affirme ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. Et la règle d'or alors devient un abîme. Je n'aimerais pas qu'on me fasse la charité devant témoin, mais suis-je au même degré d'indigence que celui ou celle dont j'imagine la honte qu'il ou elle éprouverait à être aidée et prise en charge au grand jour? Dans la parabole du bon samaritain, l'homme tombé au bord du chemin n'est-il pas en si mauvais état qu'il n'en est plus à se demander si quelqu'un va le voir se faire assister comme un pauvre hère? N'est-ce pas cette honte qui nous revient en miroir et qui fait que parfois nous n'allons pas vers celui qui se trouve dans une profonde misère et détresse? N'est-ce pas parce qu'autrui est l'image de l'humanité que nous ne voulons pas être, que nous ne voulons être à aucun prix? N'est-ce pas pour cela que nous détournons notre regard de lui pour ne pas mesurer ce que, dans la misère, nous pourrions devenir nous-mêmes? La version de la règle d'or qu'on trouve en Matthieu 7, 12, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux », est formulée comme un commandement et non pas une défense, et très loin donc de la formulation des lois de notre code civil. En changeant de syntaxe, la phrase a migré dans un autre registre que celui de l'autonomie et de la responsabilité individuelle. Ici, la première chose que cette règle affirme, c'est que je puis avoir besoin de l'autre, d'un autre, et vouloir qu'il fasse quelque chose pour moi. Je deviens tout à coup l'indigent possible. Et cet autre n'est pas un autrui quelconque, il est un homme parmi les autres hommes, un humain, dit le texte grec, anthropos, au milieu des autres humains. Il s'agit ici non pas de parler de l'autre, d'autrui, mais de parler des humains, de l'homme, de l'humanité. Il s'agit ici de parler de ce qu'est un être humain et de garder en tête cette possibilité qu'un être humain ne se fasse pas tout seul, qu'il ne se détermine pas toujours tout seul et qu'il ne puisse pas réaliser tout tout seul. Il a parfois besoin des autres. Dans notre état de droit, la personne morale est une fiction, certes bénéfique, qui permet au droit de s'appliquer à une personne en particulier, à une institution en particulier. Il n'y a pas ainsi de confusion entre les responsabilités. C'est un gage de liberté et de responsabilité individuelle que les sociétés traditionnelles ne connaissaient pas par le passé, puisque dans ces sociétés traditionnelles, tout était toujours collectif et communautaire. surtout quand le droit était un droit religieux. Souvenez-vous de l'aveugle de naissance dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, pour lequel on cherchait qui avait péché de ses parents ou de lui-même, pour qu'il soit frappé de la honte et de l'impureté qu'était alors la cécité. Cet homme n'avait aucune liberté ni aucun destin individuel, il restait enfermé dans une généalogie et dans le péché de ses parents, toujours possible à découvrir, dans une vision collective et communautaire de sa condition. Le droit moderne empêche cette confusion et chacun rend compte de ses actes pour lui-même, par lui-même ou par un représentant légal quand la dépendance ne lui permet plus de régler ses affaires lui-même. C'est l'honneur de chacun de pouvoir rendre compte pour soi-même de ses propres affaires, bien sûr. Mais regardons le contexte de la règle que Jésus énonce dans l'évangile de Matthieu. Nous sommes ici dans un contexte où les droits s'affrontent. Les règles rituelles de pureté de la religion juive de l'époque de Jésus et le droit romain, lequel ne considère pas tous les hommes égaux en droit et en dignité, loin de là. Nous sommes dans un contexte aussi d'occupation, où les Judéens et plus tard tous les habitants non romains de la région administrative fondée par les empereurs romains et nommée Syrie n'ont pas les mêmes droits que leurs occupants. Parmi ceux qui ont suivi Jésus, les pauvres, comme on les appelle souvent dans l'Évangile, qui, semble-t-il, formaient une secte supplémentaire du peuple juif, à côté des zélotes, des pharisiens, des sadducéens ou des esséniens, certains subissent chez ces pauvres la double peine. Ils sont impurs du point de vue du droit religieux juif, à cause de leur handicap peut-être, de leur maladie, de leur condition sociale d'esclaves ou d'immigrés, et ils sont soumis au silence par le droit romain d'occupation. Jésus incite au don mutuel entre humains. C'est un terme qui indique très clairement comment transcender les interdits liés à la pureté, à l'origine ou à la condition sociale. Ce que vous voulez que les autres hommes fassent pour vous signifie que vous définissez l'humanité de l'autre en fonction de ce qu'il est capable de faire pour vous ou non aussi. Vous le considérez comme étant dans la même communauté que la vôtre. Mais nous en revenons à notre effet de miroir et de projection du début. Comment faire le bien d'un autre humain ? Jésus ne répond pas tout à fait à cette question. Il répond à la question : que faire pour lui si c'est un homme ? Et il demande donc : à quelles conditions l'autre est un humain ? Jusqu'où puis-je tolérer qu'on défigure cette humanité ? Il est question ici de dignité humaine. Bien sûr, dans un débat éthique, la dignité est une étape, mais ne suffit pas. Il faut sans doute aller plus loin pour considérer autrui comme un sujet qui décide librement de sa vie. Mais qu'en est-il lorsque la liberté pleine et entière n'est pas possible ? Quand l'autonomie et la responsabilité ne sont plus possibles ? N'est-ce pas la dignité humaine qui reste le dernier rempart contre l'inhumanité ? Quand Jésus dit « Ce que tu veux que les autres hommes fassent pour toi, fais-le aussi pour eux », il reconstruit une communauté humaine là où la misère, le droit inique, la servitude font leur œuvre d'atomisation de la société et rendre solitaire ceux qui ne peuvent plus compter sur personne, ceux qui ne sont plus le vis-à-vis d'aucun homme. Là où les circonstances isolent et désacralisent un être humain, Jésus commande à la manière d'un nouveau Moïse et d'une façon positive de recréer la communauté des humains. Aujourd'hui, bien sûr, nous ne sommes absolument pas dans notre pays dans les mêmes conditions dans lesquelles les pauvres qui croyaient en Jésus et en son salut se trouvaient. Pourtant, combien d'êtres humains errent dans nos sociétés modernes en dehors de tout circuit de solidarité? Sans doute en avez-vous vu beaucoup en venant ici si vous êtes venu à pied pendant un petit moment. Combien sont là, gisant sur les trottoirs de la capitale, en guenilles, parfois à demi nus, malades, sans secours et sans vis-à-vis pour qu'on puisse leur prêter le temps d'un acte de compassion, l'humanité qui semble les avoir quittés. Combien de fois détournons-nous le regard de l'être humain que la Bible qualifie pourtant de notre propre chair? La grandeur de nos règles d'autonomie a parfois quelque chose d'effrayant, en ce qu'elle présuppose que chaque être humain doit être armé pour faire face à tout ce qui le concerne dans sa vie et résoudre ses problèmes les uns après les autres comme un vaillant soldat. Nous savons toutes et tous que ce n'est pas si simple. Et peut-être les uns et les autres ici même ont connu ces moments où l'adversité est telle qu'il faut bien une main tendue quelque part. Il arrive que l'adversité ait raison des plus fragiles, sans qu'ils puissent avoir le ressort nécessaire pour résister et se remettre debout. Il ne s'agit pas ici de prôner la bienfaisance chrétienne qui a fait, par le passé, parfois autant de dégâts que de miracles, réduisant l'autre à quelqu'un qui n'était pas capable de penser par lui-même, a priori, en voulant le bien d'autrui à sa place. La bienfaisance a parfois réduit à la condition de mineurs et de pauvres stigmatisés par leur misère ceux qu'on voulait soi-disant aider. Heureusement, aujourd'hui, la volonté et le désir des principaux concernés par la précarité sont pris en compte dans leur parcours de vie par toutes les associations et toutes les organisations qui peuvent proposer une aide. Mais combien sont dans cet isolement qui fait que leur humanité même est remise en cause, qui fait que même l'association qui se déplace vers eux, ils ne la reconnaîtront pas comme un bienfait pour eux, qui fait que même la main tendue par un autre humain qui vient en maraude, ils ne voudront pas la saisir, tellement ils sont convaincus que ça ne sert pas à grand-chose. Car si l'animal social que nous sommes toutes et tous ne fait plus partie d'aucune société solidaire et ne s'en sent plus un membre, alors que devient-il ? La règle d'or de l'évangile de Matthieu ne relève pas du droit des sociétés traditionnelles. Elle ne relève pas des règles de pureté édictées par quelques codes rituels de pureté. Elle ne relève pas non plus de nos lois modernes qui considèrent chacun par principe autonome. La règle d'or que donne Jésus dans l'évangile de Matthieu relève de l'amour, de celui qui est à l'image de Dieu et dont le manque de solidarité défigure l'humanité. Il ne s'agit pas donc de faire ici le bien de l'autre avec son accord ou sans son accord. Il s'agit bien plus de venir en aide à celui qui n'a plus le luxe de choisir ou de vouloir son propre bien, parce que ce bien ne peut venir que de son prochain, de celui qui s'approche de lui. La clé pour le comprendre se trouve ailleurs. À la fin de l'évangile, dans le discours sur le jugement dernier, « Venez, vous les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, » dit Jésus. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, de te nourrir, assoiffé, de te donner à boire ? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger, de te recueillir ou de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir vers toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous les déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Cet appel à être pour l'autre un frère, une sœur, en humanité, résonne à nos oreilles souvent comme un reproche, quand nous avons tout pour être nous-mêmes autonomes et que nous ne parvenons pas à aider celles et ceux qui sont victimes de cette misère extrême. Pourquoi n'avons-nous pas cet élan de solidarité qui permettrait de prendre en charge celui ou celle qui ne peut plus le faire? Qu'est-ce qui nous retient tellement? Peut-être parfois par paresse, sans doute, oui, mais sans doute aussi le plus souvent parce que je crois que chacun nous avons une réelle bonne volonté en nous, mais qui est arrêtée par d'autres peurs. Il s'agit d'impuissance, par fragilité intime, par peur de ne pas avoir la force de tenir bon jusqu'au moment où la personne sera enfin debout, par tout ce qui fait que nous sommes toutes et tous humains, nous aussi, sans savoir véritablement de quelle force nous disposons. Peut-être aussi parce que si nous décidons de partir seuls dans l'aventure de la solidarité, nous risquons fort de perdre une part de cet appel du Christ qui nous dit combien c'est ensemble, dans le souci les uns des autres et socialement, que nous pourrons être plus forts et davantage capables de nous entraider. Peut-être qu'il ne faut précisément pas être seul. Peut-être qu'il ne faut pas nous mettre nous-mêmes dans une autre misère qui serait alors terrible, de nous croire tout-puissants et de prendre l'autre comme l'objet de notre propre réalisation de charité. Il ne s'agit pas d'un appel à être un héros, mais bien plutôt à faire avec nos manques, à notre mesure, la mesure de notre humanité. Gardons espoir et faisons comme nous le pouvons, là où nous sommes, avec les moyens que nous avons, financiers, pratiques, humains, ce que nous pouvons faire à nos frères et sœurs qui sont autour de nous et dans lesquels nous devons reconnaître cette humanité dont parle Jésus. Chacun et chacune, nous pouvons faire en sorte de répondre à cet appel humaniste. Amen. Je vous invite à chanter le psaume 91, les strophes 1 et 2. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager quelques annonces. Et c'est Gilles, le président de l'Entraide, qui va partager avec nous des annonces.
Oui, bonjour à tous et bon dimanche. Donc, quelques annonces pour les événements de la semaine. Alors, ça commence dès ce dimanche, puisque nos deux pasteurs vous invitent dans quelques minutes à une nouvelle session de paroles d'amour. Donc c'est à la maison presbytérale et à partir de 13h15. Et le thème de la session d'aujourd'hui, c'est engagement et alliance. Alors les événements se poursuivent lundi, 5 février, puisque cette fois-ci c'est notre pasteur Agnès Adeline Schaeffer qui vous invite à un culte conférence, donc à partir de 12h30 à la maison presbytérale. Alors tout d'abord déjà un culte qui sera présidé par Agnès, et puis ça sera suivi donc par une conférence d'Elisabeth Martin sur l'œuvre du peintre Georges de la Tour. Mercredi, c'est la réunion habituelle du groupe des étudiants et des jeunes actifs. Donc rendez-vous à partir de 19h au temple. Et c'est la session de mercredi sera sur le thème « Ce sera le destin ». Jeudi, également un rendez-vous habituel puisque c'est la pause spirituelle, toujours donc animée par la pasteur Agnès Adeline Schaeffer. Et donc le rendez-vous, c'est 12h30, ici même dans le temple. Et le dernier rendez-vous là que j'ai noté, c'est pour samedi. Samedi, un concert spirituel ici dans le temple à 18h avec Sarah Kim à l'orgue. Deux petits points à vous signaler pour l'entraide. Je renouvelle l'appel de Denise Brigou, de notre amie Denise Brigou, dont l'association Ensemble un cœur est toujours à la recherche de produits d'hygiène pour les personnes en difficulté qui sont aidées. Donc, quand vous le pouvez, quand vous avez pu passer au supermarché et puis acheter un gel douche, un shampoing, vous pouvez venir nous le déposer. Donc, dans la première chapelle à gauche en entrant dans le temple, et puis donc ça sera récupéré et puis confié à Denise. Et puis, dernière chose pour moi, donc je vous annonce que l'offrande d'aujourd'hui sera affectée à l'entraide, aux actions de l'entraide. Et on n'a encore malheureusement pas le panier connecté qui permettait les dons par carte. Donc, ça ne refonctionne pas encore. Donc, ça sera uniquement en liquide et ou en chèque. Donc pensez bien à libeller les chèques pour l'entraide, sinon évidemment on ne va pas pouvoir les encaisser. Donc merci par avance à tous et encore bon dimanche.
Et je voulais annoncer, Gilles, pardon, je me permets, que dimanche prochain, je serai à Bruxelles à la paroisse du musée, à l'église du musée, à la chapelle royale de Bruxelles, pour prêcher en compagnie de ma collègue Laurence Flachon, que vous aviez eu ici le plaisir d'entendre ici même en chair, et elle viendra prêcher pour nous prochainement. Donc voilà, je porterai votre bonjour à nos amis bruxellois. Je vous invite à l'offrande. Avant de prier ensemble dans la prière d'intercession, je voulais partager avec vous un sujet de prière pour la famille Edelman, hein, puisque cette semaine nous avons fait ici le service d'action de grâce pour la vie de Frédéric Edelman, chroniqueur au journal Le Monde sur les questions d'architecture et de patrimoine, mais aussi un pionnier de la lutte contre le sida de la première heure, et qui a fait énormément pour cette cause pendant toute sa vie. Voilà, je voulais simplement que vous reteniez dans votre cœur cette mémoire. Je vous invite à la prière. Éternel, nous te remettons toutes ces femmes et tous ces hommes et tous ces enfants qui dorment sur les trottoirs de Paris et qui ont souvent comme seule activité de toute une journée de trouver des moyens de subsistance, de chercher un abri, d'appeler pendant des heures le 115 pour trouver un lieu d'hébergement pour la nuit qui vient. Tu connais notre difficulté, notre impuissance face à une misère qui semble ne jamais disparaître. Tu connais notre difficulté à nous approcher de ceux qui sont dans une misère telle qu'il est devenu difficile de les reconnaître comme frères ou sœurs en humanité. Éternel, donne-nous des forces. Donne-nous la communion fraternelle qui permet de nous organiser et de faire en sorte que notre société laisse une place véritable à celles et ceux qui un jour tombent. Éternel, nous te remettons nos communautés, qu'elles soient toujours des lieux d'accueil pour celui qui sent que les forces l'abandonnent, que ces communautés soient l'accueil nécessaire qui permettra de ne pas sombrer dans la désocialisation. Éternel, nous te remettons toutes celles et ceux qui œuvrent jour après jour à l'assistance des plus démunis, qui leur réservent toujours cette part d'autonomie, de choix, ce respect et cette dignité dont chaque être humain a besoin, malgré parfois des circonstances abominables. Soutiens tous ces travailleurs sociaux. Soutiens-les dans leur métier. Et rappelle-nous à nous aussi qu'ils sont essentiels à notre société. Permets que nous soyons ensemble avec eux au travail, en organisant avec eux les associations, en donnant des dons pour que les projets soient possibles. Permets, Éternel, que politiquement nous prenions directement le parti des plus démunis et que nous n'acceptions pas qu'ils soient mis de côté dans notre société. Éternel, dans notre capitale, bientôt il y aura les Jeux Olympiques. Et déjà, des projets pour faire une ville propre, débarrassée de tout ce qui pourrait gêner la vue idyllique de la ville lumière, s'organisent. Alerte-nous, permet que nous restions toujours vigilants pour que les plus pauvres et les plus fragiles ne soient pas envoyés au loin pour ne pas gêner la vue magnifique d'un Paris idéalisé. Ils sont nombreux dans les bidonvilles autour de Paris. Ils sont nombreux autour des aéroports, pas loin des gares, et ils s'organisent comme ils peuvent. Permet, Éternel, que nous en ayons le souci réel. Donne-nous la force nécessaire de les aider. Ensemble, je vous invite à nous lever et à nous adresser à Dieu comme à un Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, allez avec ces mots de bénédiction pour les porter à d'autres qui en ont besoin et qui ne savent pas que cela existe peut-être. Le Seigneur de toute grâce vous bénit et vous garde. Amen.